1926, au cours de fouilles archéologiques menées à Kérazé, ville à proximité du lac de Galilée, donc de Capharnaüm, on a trouvé dans une synagogue un très beau siège sculpté dans la pierre, portant mention d'une dédicace. Il s'agissait d'une chaire de Moïse, sur laquelle, dans l'Antiquité, le rabbi, le maître, était assis et enseignait la Torah ou rendait la justice. Cela conférait au rabbi l'autorité de Moïse lui-même. C'est dire l'importance symbolique pour les Juifs de ces chaires de Moïse dont on trouve des exemplaires dans certaines synagogues antiques du Proche-Orient. Jésus évoque la chaire de Moïse dans l'Évangile selon saint Matthieu quand il recommande à ses interlocuteurs d'écouter les scribes et les pharisiens lorsqu'ils enseignent, mais de ne pas les imiter quand leurs actions contredisent leurs paroles. D'une certaine façon, Jésus dénie toute autorité à ceux qui disent mais ne font pas. Et c'est bien de cela dont il est question dans les textes de ce matin. Que signifie avoir une parole d'autorité? Pour pouvoir répondre, il nous faut écouter ce que révèle le Seigneur par sa parole. Une parole d'autorité est une parole de prophète. Une parole d'autorité est une parole efficace. Une parole d'autorité est une parole qui fait vivre. Un prophète est celui qui parle en avant de quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'est Dieu. En effet, pour mener son peuple en terre promise, Dieu s'est choisi un prophète, Moïse, qui est une sorte de médiateur et de porte-parole. Ce choix n'est pas dicté par les qualités humaines de Moïse, puisqu'on se rappelle sa bouche lourde et sa langue pesante, pour reprendre les termes utilisés dans le livre de l'Exode. D'autres compétences justifient l'appel du Seigneur, au premier rang desquelles se trouvent l'humilité et la fidélité. On sait que Moïse est ainsi très humble, l'homme le plus humble que la terre ait porté, et qu'il est digne de confiance, d'après ce que nous dit le livre des Nombres. Dieu met en garde contre la tentation pour le prophète de dévoyer sa mission, soit en utilisant le nom de Dieu pour dire une parole non reçue de lui, soit en mettant sa parole au service d'autres dieux. Et nous savons que deux des premiers commandements donnés au Sinaï portent justement sur le respect du nom de Dieu et sur l'unicité du culte à rendre à Dieu. Il n'y a qu'un seul Dieu. Pensons à tous ces événements qui nous mettent en face d'un dévoiement du nom de Dieu, quand celui-ci est instrumentalisé pour servir des causes bien humaines. Ou bien quand Dieu est remplacé par les idoles, idoles du pouvoir, du sexe, de l'argent, de la science, de la guerre. Le modèle du prophète, le prophète avec un grand P, c'est Jésus. Jésus en qui les deux disciples d'Emmaüs reconnaissent un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Non seulement Jésus est un prophète, mais il est le Verbe de Dieu, la parole faite chair. Pas de hiatus entre Dieu et celui qui l'envoie. Jésus est vrai homme et vrai Dieu. Comme le dit saint Jean de la Croix, le Père a dit une parole, qui est son Fils. Par le baptême, nous sommes prêtres, prophètes et rois, à l'image de Jésus. Honorer notre mission prophétique de prophète, c'est nous mettre au service de la parole, dans l'humilité de l'écoute et la fidélité de l'annonce. Pensons au synode diocésain, dont la célébration commencera dès aujourd'hui, cet après-midi, à la cathédrale Saint-Julien. Comment nous mettrons-nous à l'écoute du Seigneur? Comment nous mettrons-nous à l'écoute de ce que l'Esprit voudra dire aux Églises? Humblement, certainement. En essayant de discerner ce que le Seigneur veut pour nos communautés paroissiales aujourd'hui et pour demain. Humilité de l'écoute et fidélité de l'annonce. L'enjeu de ce synode n'est pas simplement une réorganisation ou une revitalisation de nos paroisses. Il y aura certainement de ça, mais cela va évidemment beaucoup plus loin. Comment, aujourd'hui, annoncer à frais nouveaux l'Évangile de Jésus-Christ aux hommes et aux femmes de ce temps? Comment faire pour que notre communion soit une communion missionnaire? Comment faire pour porter une parole prophétique qui vienne directement de Dieu toucher le cœur de nos contemporains? La parole d'autorité est une parole de prophète, c'est aussi une parole efficace. Pourquoi les personnes rassemblées à la synagogue de Capharnaüm font-elles la différence entre Jésus, qui enseigne en homme qui a autorité, et les scribes? Et pourquoi s'étonne-t-elle de cet enseignement nouveau? Les scribes sont des lettrés qui fondent leur enseignement sur un savoir transmis de maître en maître, sur une tradition pluriséculaire et éprouvée d'études de la loi. Jésus, lui, fait partie de ces hommes à qui l'on accorde de commenter l'Écriture après sa lecture, le jour du sabbat, mais il ne semble pas faire partie de la caste des scribes. Pourtant, c'est bien lui qui fait autorité, et non les docteurs de la loi. Pourquoi? Entre les paroles et les actes de Jésus, pas une discordance, pas le moindre hiatus. La parole de Dieu est et fait ce qu'elle dit, contrairement aux scribes dont les actes semblent contredire les paroles. Je vous renvoie à nouveau à l'Évangile selon saint Matthieu. Une parole efficace, c'est aussi une parole qui agit. Face à l'esprit impur, dont les paroles manifestent la confusion, il dit « je », ils disent « nous ». Jésus se montre économe en paroles, mais elles ont un effet immédiat. Elles imposent le silence à l'esprit et le font sortir de l'homme tourmenté. Dans la bataille des paroles, Jésus montre toute son autorité. L'esprit impur pensait pouvoir circonscrire ce Jésus de Nazareth en le nommant « Tu es le Saint de Dieu ». Et vous savez bien que nommer quelqu'un, c'est avoir prise sur lui d'une certaine manière. Mais c'est en vain. Jésus a une parole qui fait autorité, une parole efficace qui vient directement de Dieu. Il est Dieu. Et cette parole, c'est une parole cohérente avec tout ce qu'il est. Il est le chemin, la vérité, la vie. Et nous, quand nous parlons de miséricorde, quand nous parlons de justice et de paix, quand nous parlons de pardon, nos paroles disent-elles ce que nous sommes et ce que nous faisons? Quelle est la cohérence entre ce que nous professons et ce que nous vivons? Une parole d'autorité, c'est une parole de prophète, une parole efficace, et c'est surtout une parole qui fait vivre. Et c'est là que l'étymologie vient nous donner de grands renseignements. Autorité vient du latin auctoritas, dont la racine, aug, veut dire faire grandir, faire croître, fortifier. La parole de Jésus est une parole qui fortifie, qui rend fort, d'abord contre le mal dont il est le vainqueur, non seulement dans l'exorcisme qu'il pratique, on l'a entendu tout à l'heure dans l'Évangile, mais fort contre le mal, y compris sur la croix. Une parole en silence, mais beaucoup plus forte, beaucoup plus décisive que tous les mots. Oui, la parole d'autorité est la parole qui fait grandir, qui fait vivre, Rappelons-nous les paroles qui nous ont fait grandir, qui nous ont fait vivre. Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Je vous déclare mari et femme. Je t'aime. Ce sont des paroles qui disent ce qu'elles font et qui font ce qu'elles disent. Là, ce sont des paroles qui nous font vivre. Alors, nous qui avons être des prophètes du Seigneur, au titre de notre baptême, ayons à cœur d'avoir pour les personnes qui nous entourent des paroles qui font vivre, des paroles qui font croître, qui font grandir. Vous, les parents, vous le savez bien, il faut parfois avoir des paroles d'autorité négatives, qui n'autorisent pas, positives, qui autorisent. Eh bien, c'est exactement la même chose avec tous ceux qui nous demandent des comptes sur notre foi. Ayons des paroles qui autorisent, qui font grandir, afin de pouvoir, comme saint Paul, proposer ce qui est bien, afin que les hommes et les femmes de notre temps soient attachés au Seigneur sans partage. Amen.